Donc la semaine dernière, je vous ai présenté un petit peu l'ensemble de notre parcours. Et spécialement, j'ai essayé de vous rappeler aussi la perspective dans laquelle nous situerons nos rencontres, en prenant le mot « histoire » vraiment au sens de l'histoire dans la révélation, donc vraiment l'histoire au sens d'un engendrement. Et je vous rappelais aussi l'importance de la tradition, histoire et tradition, en vous rappelant que Benoît XVI, quand il a donné certaines catéchèses sur l'Église, parlait de la tradition comme communion dans le temps. Nous sommes en communion, nous sommes donc contemporains avec les chrétiens à la fois de tous les lieux, mais aussi de tous les siècles. Et donc en étudiant, en rencontrant, en fréquentant ces grandes figures spirituelles tout au long de ce semestre, nous ne fréquentons pas, vous voyez, des saints anciens, oubliés. Peut-être nous les avons oubliés, nous les connaissons très mal, ça certainement. Mais nous fréquentons des frères unis dans la foi qui cheminent avec nous et qui ont la même foi que nous et qui sont plus proches de la source que nous dans le temps. Et nous sommes nous-mêmes les héritiers de cette longue tradition de sainteté qui nous porte, qui nous engendre, qui nous accompagne aujourd'hui. Alors ce soir, nous allons commencer par remonter encore plus loin vers la source, puisqu'une histoire de la spiritualité chrétienne passe nécessairement par un retour jusqu'aux racines. Et le Christ n'est pas apparu comme ça un beau jour de l'histoire, comme un météorite ou tombé du ciel, venu de nulle part. Il s'est fait chair dans un peuple, à un moment donné de l'histoire, dans le sein d'une femme, la Vierge Marie, au milieu d'un peuple qui avait une histoire sainte caractérisée par une alliance qui le liait à Dieu. Et donc Marie, elle est petite fille d'Israël. Et le Christ a assumé toute l'histoire de ce peuple d'Israël. Les premiers apôtres choisis par Jésus étaient des Juifs. Et donc tout ça, ça ne peut pas être sans conséquence, bien sûr, sur la spiritualité chrétienne. D'ailleurs, dans les premiers temps de l'Église, les premières dizaines d'années, disons, les premiers chrétiens continuaient à prier dans le temple, dans les synagogues, et donc le christianisme ne s'est pas immédiatement séparé du judaïsme. Ça s'est fait progressivement dans le temps. Et pendant toute une période, le christianisme a même été considéré comme une sorte de courant du judaïsme, une branche du judaïsme. Et la séparation ne s'est faite que peu à peu. Et à l'intérieur même de cette séparation, eh bien, nous héritons de quantités de richesses d'Israël. Je vous rappelle cette parole du pape Pie XI à un groupe de pèlerins belges, dans un mot resté très célèbre. En 1938, le pape disait « Nous sommes spirituellement des sémites. Nous sommes tous spirituellement des sémites. » C'était évidemment à l'époque, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où le gouvernement italien préparait déjà des lois raciales fascistes. Et le pape disait « Par le Christ et dans le Christ, nous sommes de la descendance spirituelle d'Abraham. Non, il n'est pas possible aux chrétiens de participer à l'antisémitisme. Certes, nous reconnaissons à quiconque le droit de se défendre, de prendre les moyens de se protéger contre tout ce qui menace ses intérêts légitimes. Mais l'antisémitisme est inadmissible. Nous sommes spirituellement des sémites. » Il faut chercher à comprendre cette parole, pas seulement, voyez, au niveau du contexte historique, mais théologiquement, spirituellement. Donc ce soir, on va procéder en deux grandes étapes. D'abord, alors c'est très difficile, on pourrait passer toute l'année là-dessus et il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi pour le faire. Je vais quand même essayer, d'une manière assez ramassée, condensée, de caractériser dans ses traits essentiels la spiritualité juive. Ça demanderait beaucoup de nuances, beaucoup de temps, beaucoup de distinctions que je ne pourrais pas faire. Et puis, ce n'est pas le propos du cours. Mais je vais essayer de vous rappeler quelques éléments clés pour regarder ensuite, dans une deuxième étape, la nouveauté du Christ. Il y a héritage, il y a continuité, mais il y a en même temps radicale nouveauté. Alors, comment caractériser la spiritualité juive ? J'ai longtemps réfléchi à la manière de m'y prendre. J'ai finalement choisi de partir d'un texte de l'Écriture. Là aussi, il y aurait eu plusieurs choix possibles. Mais j'ai choisi un chapitre du Deutéronome qui condense, qui est assez riche et qui rappelle dans un seul chapitre beaucoup de vérités centrales. Alors je vous rappelle le contexte, hein, je vous lis les premiers versets du chapitre 1 du Deutéronome. « Voici les paroles que dit Moïse à tout Israël, au-delà du Jourdain, dans le désert, dans la Araba. » Je passe. « En la 40e année, le 11e mois, le premier jour du mois, Moïse parla aux fils d'Israël, selon tout ce que lui avait commandé le Seigneur pour eux. » Et donc le Deutéronome, c'est comme un long discours de Moïse au peuple d'Israël. Et c'est dans ce chapitre 6 que vous avez sur la feuille de route, hein, vous pouvez suivre. C'est dans ce chapitre 6 que vous avez ce célèbre passage du Shema Israël. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Donc je vous propose qu'on reçoive ces paroles, peut-être comme si nous les entendions pour la première fois. Il faut que ça passe par l'oreille, donc on va prendre le temps de les réécouter, pas seulement de les lire, mais vraiment de les écouter comme paroles du Seigneur pour nous. Et puis ensuite, j'essaierai avec vous de dégager de ce texte, hein, tout ce que ça nous dit sur le lien d'Israël à son Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'être juif ? Donc c'est Moïse qui parle. Hein. « Tels sont les commandements, les lois et les coutumes que le Seigneur votre Dieu a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. » En écoutant, essayez de repérer s'il y a des termes qui reviennent, hein, des choses qui se répètent ou des thèmes récurrents. Hein. Ainsi, si tu crains le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, si tu observes toutes ses lois et ses commandements que je t'ordonne aujourd'hui, tu auras longue vie, toi, ton fils et le fils de ton fils. Puisses-tu écouter Israël ? Garder et pratiquer ce qui te rendra heureux et te multipliera, ainsi que te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères, en te donnant une terre qui ruisselle de lait et de miel. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur, tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Lorsque le Seigneur, ton Dieu, t'aura conduit au pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, aux villes grandes et prospères que tu n'as pas bâties, aux maisons pleines de toutes sortes de biens, maisons que tu n'as pas remplies, aux puits que tu n'as pas creusés, aux vignes et aux oliviers que tu n'as pas plantés, l'or donc que tu auras mangé, que tu te seras rassasié. Garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est le Seigneur ton Dieu que tu craindras, lui que tu serviras, c'est par son nom que tu jureras. Ne suivez pas d'autres dieux, d'entre les dieux des nations qui vous entourent, car c'est un Dieu jaloux que le Seigneur ton Dieu qui est au milieu de toi. La colère du Seigneur ton Dieu s'enflammerait contre toi et il te ferait disparaître de la face de la terre. Vous ne mettrez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve comme vous l'avez mis à l'épreuve à Massa. Vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, ses instructions et ses lois qu'il t'a prescrites. Et tu feras ce qui est juste et bon aux yeux du Seigneur afin d'être heureux et de prendre possession de l'heureux pays dont le Seigneur a juré à tes pères qu'il en chasserait tous tes ennemis devant toi. Ainsi l'a dit le Seigneur. Lorsque demain ton fils te demandera, Qu'est-ce donc que ces instructions, ces lois, ces coutumes que le Seigneur notre Dieu vous a prescrites ? Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Le Seigneur a accompli sous nos yeux des signes et des prodiges grands et terribles contre l'Égypte, Pharaon et toute sa maison. Mais nous, il nous a fait sortir de là pour nous conduire dans le pays qu'il avait promis par serment à nos pères et pour nous le donner. Et le Seigneur nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois afin de craindre le Seigneur notre Dieu, d'être toujours heureux et de vivre comme il nous l'a accordé jusqu'à présent. Telle sera notre justice, garder et mettre en pratique tous ses commandements devant le Seigneur notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Il y a un très beau passage que nous pouvons bien sûr intégralement assumer et porter dans notre prière, dans notre relation avec Dieu. Première vérité essentielle, hein, le Seigneur est un, le Seigneur est unique. À lui seul sont dues l'adoration et la louange. Israël, c'est un peuple d'adorateurs. Et à l'époque, évidemment, ce monothéisme strict d'Israël, qui adore le Dieu unique, distingue de manière radicale Israël de tous les peuples qui l'entourent. L'adoration, c'est la reconnaissance de la souveraineté de ce Dieu unique, de qui l'homme tient tout ce qu'il est, son être, sa vie, ses capacités, son présent, son avenir, tous les biens de la création qui lui permettent de vivre. C'est ça l'adoration. Reconnaître que tout vient de Dieu, tout ce que je suis. Le juif, Judas, judaïsme, c'est celui qui loue Dieu, celui qui rend gloire à Dieu, celui qui vit dans la louange de Dieu. Je vous lis un passage des 18 bénédictions que le juif reprend dans sa prière. « Seigneur, tu ouvriras mes lèvres et ma bouche annoncera tes louanges. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, et le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu grand, puissant et redoutable, Dieu très haut, qui récompense ses fidèles, qui est le maître de toutes choses, qui se souvient de ses miséricordes, qui donnera un rédempteur aux enfants de leurs enfants, à cause de son nom, dans son amour, le roi secourable qui sauve et qui protège. Tu es béni, Seigneur, bouclier d'Abraham. » Vous voyez, toute une attitude, avoir une âme d'adoration, une âme de louange. Première vérité essentielle à la spiritualité juive. En même temps, ce Dieu qui est si grand, qui est majestueux, qui est créateur, qui est tout-puissant, c'est aussi un Dieu qui se révèle tout proche de son peuple, un Dieu qui accompagne, et plus précisément un Dieu qui veut le bonheur de ses fidèles. Vous avez fait attention dans le Deutéronome, tous ces passages. Puisses-tu écouter, pratiquer, Israël, ce qui te rendra heureux et te multipliera. Dieu est un Dieu qui veut le bonheur de ses élus. Un Dieu qui promet, une terre qui ruisselle de lait et de miel. Tu feras ce qui est juste et bon aux yeux du Seigneur afin d'être heureux. Et c'est ça le but de notre lien à Dieu, c'est afin d'être heureux. Donc un Dieu qui se révèle tout proche, qui considère même l'homme, et c'est inouï quand on y pense, qui considère l'homme comme un vis-à-vis, comme un interlocuteur. Il y a un dialogue qui s'établit dans toute cette histoire sacrée d'Israël. Un Dieu qui se lie aux hommes. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est incroyable que Dieu se désigne, se révèle. Je suis le Dieu d'Abraham. Comme s'il y avait une sorte de dépendance, de lien. Un Dieu qui révèle son nom. Pensez à cet épisode du buisson ardent avec Moïse. Donc un Dieu qui veut être connu de l'homme. À la fois il est invisible, transcendant, inconnaissable au-dessus de tout, et en même temps il se révèle, il se fait connaître, il se donne. Et il supplie Israël de choisir la vie, de choisir le bonheur. Comme elles sont loin, toutes les images hein, d'un Dieu tyran, arbitraire, venant diriger le monde un petit peu comme ça, un Dieu qui veut le bonheur de l'homme. Et donc l'adoration d'Israël, c'est aussi une adoration qui est tout entière portée par la reconnaissance, par l'amour. Hein ? Ça n'est pas une adoration d'esclave, c'est une adoration d'amour. Toute l'histoire d'Israël, c'est une histoire d'amour, une histoire d'alliance. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Et dans l'histoire sainte, on voit comment Dieu se révèle comme amoureux de son peuple, hein, époux d'Israël. Il regarde Israël comme une épouse, comme une bien-aimée, dont il fait tout pour garder la fidélité. Hein. Et même quand Israël est infidèle, se prostitue aux idoles, eh bien, Dieu la rappelle. Pensez à Osée, Isaïe, Ézéchiel, hein. Tous ces passages où l'alliance nous est décrite en termes d'alliance nuptiale. Hein, ce n'est pas une alliance entre un maître et un esclave, mais une alliance entre un époux et une épouse infidèle, mais que Dieu restaure constamment. Hein. C'est l'amour de Dieu qui restaure en Israël une fidélité abîmée. Autre trait essentiel, Dieu se révèle en agissant. Ce n'est pas une révélation théorique. Dieu se révèle en libérant de la servitude d'Égypte. C'est ça qui est fondateur du peuple d'Israël. Dieu, le peuple d'Israël naît dans cette libération. C'est ça qui le constitue comme peuple. Et donc la révélation de Dieu, la connaissance de Dieu, et même le don de la Torah, de la loi, hein, sont inséparables d'une expérience de libération, de salut. Et c'est de cette expérience de libération qu'on va faire mémoire de génération en génération. Hein. Quand ton fils te demandera, ben tu lui diras, nous étions esclaves en Égypte, le Seigneur nous a libérés. Donc un Dieu qui libère. Et donc le juif, en obéissant aux préceptes, à la loi, à la Torah, vous avez vu hein, le nombre de fois, vous pouvez prendre des petits crayons de couleur, là, c'est un très bon exercice à faire, et puis souligner tous les mots qui évoquent l'obéissance, hein, la loi, les préceptes, les décrets, les instructions que je t'ordonne, que je te dicte. Et bien regardez, c'est omniprésent. Mais qu'est-ce que ça nous dit ça ? Parce que nous, dès qu'on nous parle de loi, d'obéissance, on pense code de la route, on pense contrainte, on pense obligation pénible. Et bien pour Israël, la loi, c'est ce qui le rend libre. Puisque c'est ce qui, justement, le constitue comme peuple. Notre Dieu est un Dieu qui libère. Et donc, le don même de la Torah, c'est le signe de cette libération dans laquelle nous sommes nés et renés, et dans laquelle nous renaissons en permanence. Donc ça n'est pas d'abord une loi de contraintes, de fardeaux, d'obligations pénibles. C'est une loi qui me rend libre. Et donc dans chaque acte d'obéissance, hein, le juif fait mémoire de cet acte de libération. Être en Égypte, c'est être esclave. Hein. Être tiré de l'Égypte par Dieu et se mettre sous le joug de la Torah, c'est devenir libre. Servir Dieu, c'est être libre. Passer de la servitude au service. Et donc le judaïsme, vous voyez, de même que Dieu se révèle dans une expérience de salut, eh bien le juif, il est juif à travers une expérience, en agissant, en obéissant. On n'est pas d'abord juif en croyant, mais en vivant sa foi à travers des actes d'obéissance. On va parler davantage d'orthopraxie que d'orthodoxie. Bien sûr, il y a une foi juive, mais cette foi juive, c'est toujours une foi vécue. C'est pas d'abord une doctrine, c'est pas un catéchisme, c'est pas un énoncé dogmatique, c'est une vie. Et donc le juif, il est invité à un agir religieux qui informe toute sa vie quotidienne, du matin au soir et du soir au matin. On va dire le judaïsme, c'est davantage un faire, un pratiquer, un agir, qui ponctue tous les moments de la journée du juif pieux, du juste. Pourquoi ? Bah pour lui rappeler du matin au soir et du soir au matin, de génération en génération, qu'il vient de Dieu et qu'il existe pour Dieu, qu'il marche vers Dieu, et que c'est ça sa liberté et son bonheur. 613 commandements. On dit ça, je n'ai pas vérifié, je ne les ai pas comptés moi-même. 613 commandements. Et plus symboliquement, là non plus je n'ai pas vérifié, je ne fais que vous répéter ce que j'ai entendu, ou ce que dit la tradition juive. On dit qu'il y a dans ces 613, 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs. Vous voyez la différence, un fait ou ne fais pas. Un fait ceci, je te prescris de faire cela, ou bien tu ne te feras pas d'image, tu ne feras pas ceci, tu ne mangeras pas le sang avec la chair, etc. Qu'est-ce que ça veut dire symboliquement ? 248, je ne sais pas s'il y a des scientifiques parmi vous qui pourront toujours contester ou objecter, mais enfin, en tout cas, symboliquement, c'était le nombre des parties du corps, le nombre des os. 248 commandements positifs. Ça veut dire, je suis appelé à servir Dieu, à obéir à Dieu avec tout ce que je suis, avec toutes les parties de mon être, avec toutes les parties de mon corps. Donc dans tout le réalisme de ma vie, en mettant toutes mes forces, en engageant toute ma personne au service de Dieu. Et puis 365 commandements négatifs. 365 comme 365 jours de l'année. Ça c'est plus facile comme symbolisme, ça nous évoque tout de suite le nombre de jours de l'année. Chaque jour est un don que je reçois de Dieu. Mais chaque jour est aussi le rappel, vous voyez, de ma condition humaine, limitée, de ma finitude. Je n'ai qu'aujourd'hui pour servir Dieu. Le futur n'est pas encore, le passé est passé. Aujourd'hui, dans ma condition humaine, avec ce que je suis, humblement, vous voyez, à l'intérieur de cette limite de la journée qui m'est donnée, j'ai quelque chose à vivre de grand. Donc voilà, 248 plus 365, ça doit faire 613. Vous pouvez toujours faire vos petites opérations si vous voulez. Et donc, 613 commandements pour nous dire que rien n'est banal à vivre. Et tout est sacré pour le juif. Tous les moindres actes de la vie quotidienne sont codifiés, précisés, orientés par un commandement. Qu'il soit positif ou négatif. Donc une atmosphère, vous voyez, de permanence religieuse. C'est pour ça que vous avez, donc c'est une autre vérité essentielle, en permanence vous avez ce rappel, garde-toi d'oublier, souviens-toi, n'oublie pas que. Et ces 613 commandements qui codifient toute la vie du matin au soir, elles sont une manière de se rappeler, de se souvenir en permanence. D'avoir en mémoire la présence d'un Dieu libérant, agissant, aimant, au cœur de notre vie quotidienne. C'est aussi le sens de toutes les prières de bénédiction, là aussi, qui accompagnent toute la journée du juif. Il y a des bénédictions pour tout. Inviter Dieu, reconnaître la présence de Dieu. Dans la simplicité, le plus ordinaire de la journée. Donc, obéir, vous voyez, à tous ces préceptes, ces commandements, aussi matériels ou étonnants soient-ils, eh bien, pour le juste, pour le fidèle, c'est l'attestation d'une communion avec Dieu. Donc c'est un chemin de vie, de lumière, de bonheur. Autre vérité essentielle que je ne peux pas développer trop et qui est peut-être moins présente dans le chapitre du Deutéronome et qui est essentielle dans le peuple d'Israël, c'est que aimer Dieu, lui obéir, c'est aussi le célébrer. C'est la place des fêtes. Nous avons gardé ça, bien sûr, dans la liturgie chrétienne. Il y a un cycle liturgique, il y a des fêtes, on commémore. Eh bien, Israël, c'est un peuple qui célèbre. Un peuple sacerdotal, un peuple dont toute la vie est centrée sur le culte, sur le temple, rythmé par des sacrifices quotidiens et par des fêtes qui vont commémorer les grands événements de l'histoire. Et là encore, ces fêtes, c'est tout autre chose qu'une commémoration d'un événement historique passé. C'est ce que je vous rappelais la semaine dernière sur le sens de l'histoire. C'est une reconnaissance de l'actualité de l'acte de Dieu, et non pas une simple commémoration du passé. Et donc, célébrer la Pâque, c'est célébrer la libération actuelle de Dieu pour le peuple et pour moi aujourd'hui. Donc vous avez plusieurs fêtes principales, comme la Pâque, la Pentecôte, la fête des tabernacles, on commémore le séjour au désert. Eh bien, voilà, chaque année, le peuple d'Israël se passe quelques jours comme ça, sous les tentes. Vous voyez, on passe quelques jours sous la tente. Donc, on revit l'expérience. Ce n'est pas juste une commémoration, là encore, intellectuelle, mais on le revit, on veut expérimenter dans sa chair. Refaire l'expérience de cette vie nomade du désert qui montre qu'on n'a pas de cité permanente ici-bas. On est en marche vers la terre que Dieu a promise. Donc, voyez, écouter, se souvenir, écouter pour redire, écouter pour répéter, pour transmettre, adorer et aimer, obéir et célébrer. Et puis, peut-être une manière de résumer tout cela. C'est le dernier verset de notre passage. Telle sera notre justice. La justice, là encore, c'est pas du tout au sens de la justice du tribunal. Le juste en Israël, c'est celui qui est ajusté à ce que Dieu lui demande. Celui qui règle sa conduite sur la Torah. Telle sera notre justice, garder et mettre en pratique tous ses commandements comme il nous l'a ordonné, et puis peut-être l'expression essentielle, devant le Seigneur notre Dieu. Oui, c'est la finalité de tout, être en présence de Dieu, vivre en sa présence, vivre tout pour lui. Donc le juif, c'est celui qui vit jour et nuit devant le Seigneur, et qui va donc conformer sa vie, ajuster sa vie à cette présence de Dieu. Alors cette présence de Dieu, dans la tradition juive, dans le Talmud, on l'appelle, je vous donne le mot en hébreu, la Shekina. Shekina, ça vient du verbe shakan en hébreu, qui veut dire séjourner. Séjourner sous la tente, demeurer, dresser sa tente. Et vous avez dans toute l'histoire d'Israël de nombreuses manifestations de cette Shekinah, de cette présence de Dieu. L'ange du Seigneur, c'est une certaine présence de Dieu. C'est le Seigneur lui-même, on vous dit l'ange du Seigneur. Vous avez aussi la colonne de nuée, la colonne de feu, qui va guider le peuple d'Israël à travers le désert, qui éclaire pendant la nuit. En Exode au chapitre 13, si vous voulez relire le passage. Et puis vous avez la gloire de Dieu, toutes ces grandes théophanies sur le sommet du Sinaï par exemple, où là, vous avez la gloire de Dieu semblable à un feu dévorant. Exode 24. Et puis vous avez, on avance encore un petit peu dans l'expérience du peuple d'Israël, hein, dans cette tente du rendez-vous, hein, cette tente de la rencontre que Moïse a dressée sur l'ordre de Dieu, en suivant précisément toutes les indications de Dieu. Et puis plus tard dans le temple de Jérusalem, vous avez l'arche d'alliance, Shekinah, présence de Dieu pour le peuple. Ou plus exactement, parce que ça n'est pas directement l'arche qui est présence de Dieu pour le peuple, ça n'est pas non plus, comme on le pense le plus souvent, ce qu'il y a dans l'arche, qui est, hein, de même que nous, on va dire, bien, présence réelle du Christ, de l'Eucharistie au tabernacle, dans le tabernacle. Bien non, l'arche d'alliance, ce n'est pas ça. La présence de Dieu, ça n'est pas d'abord ce qu'il y a dans l'arche, hein, les tables de la loi ou la manne, mais c'est au-dessus de l'arche, cet espace vide, justement, hein, qu'on va appeler le propitiatoire, cet espace vide entre les deux chérubins. Vous savez, il y avait l'arche, puis au-dessus d'une figure comme deux chérubins, puis un espace vide, hein, qui, ça forme comme un trône, et puis vous avez un trône, mais vide. Et bien, c'est ce vide-là qui symbolise la présence de Dieu, parce que Dieu est invisible, il est là, il est présent, il trône. Et en même temps, il est insaisissable. Et puis vous avez aussi une manière, un lien très important entre cette présence de Dieu et la loi, la Torah. Les rabbins disent, et ça va vous rappeler tout de suite une parole de Jésus, là où deux ou trois lisent la Torah, la Shekinah est au milieu d'eux. Ça vous rappelle quelque chose? Non? Oui? Matthieu 18. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Là où deux ou trois lisent la Torah, la Shekinah est au milieu d'eux. C'est intéressant parce que ça veut dire que quand Jésus reprend cette parole, il se présente lui-même. C'est impossible pour un juif d'entendre une parole comme ça, hein, et de ne pas comprendre. Ben, Jésus se présente comme la présence de Dieu véritable. Et donc dans la tradition juive, eh bien, cette présence de Dieu est si forte, hein, cette Shekinah est si forte qu'elle en vient même à être considérée comme presque comme une présence physique de Dieu, ouais, presque personnifiée même, hein, comme la compagne, l'épouse qui fait les délices du juif fervent jour après jour. En même temps, c'est une présence qui ne se laisse jamais enfermer, qui ne se laisse jamais saisir complètement. Elle se livre, mais elle reste insaisissable. L'arche d'alliance, par exemple, hein, vous savez que donc elle accompagnait le peuple juif dans sa marche, mais il était essentiel à cette arche d'avoir des, vous savez, des barres pour la transporter là. Mais même quand on était fixé pendant quelques jours sur un lieu, ben on ne retirait pas les barres. Il fallait que cette arche elle soit toujours prête au départ. Et plus encore, hein, toujours prête à se mettre en marche, mais plus encore, il faut enrichir encore ce symbolisme de la présence de Dieu, de la Shekinah, par un autre symbole qui est essentiel dans toute la mystique juive, c'est celui du char de feu, hein, la Merkaba. Je n'écris pas au tableau parce que vous l'avez au dos de la feuille de route, quand on va le regarder pour le Christ, hein, qui accomplit pleinement cette figure de la Shekinah et de la Merkaba. Donc si vous voulez voir comment ça s'écrit, vous retournez votre feuille. La Merkaba, vous savez, c'est ce char de feu que contemple, enfin ce char que contemple le prophète Ézéchiel au chapitre 1. Et puis on retrouve ce même char de feu avec des coursiers de feu qui emportent le prophète Élie au ciel. Donc c'est une présence, mais une présence qui passe sans jamais se fixer. Une présence dynamique, si vous voulez. Une présence qui entraîne vers le ciel. Alors le Christ se présente, je vous le disais à l'instant, explicitement comme l'accomplissement plénier de ces images de la Shekinah, de la Merkaba. Il est la présence véritable de Dieu au milieu de son peuple, et il est aussi celui qui nous entraîne dans son retour vers le Père. à la fois il est l'Emmanuel véritable, hein, Dieu avec nous. Il faudrait, je ne sais pas si j'ai le temps de le faire, mais dans l'évangile de Jean, par exemple, vous avez plusieurs passages comme ça qui évoquent de manière très, très directe, hein, la Shekhinah. Dans le prologue, hein, quand Jean dit « Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, il a dressé sa tente parmi nous hein, », eh bien le Verbe, alors « eskenosen » en grec, mais c'est non seulement la même signification que le verbe « séjourner », »,« dresser sa tente » en hébreu, mais c'est les mêmes consonnes. Hein. Il y a un jeu de mots évident entre « chakan » et « eskenosen hein, », le verbe hébreu puis le verbe grec. Donc une évocation de la Shekhinah. Il a dressé sa tente, il est venu séjourner. Mais cette fois-ci, c'est une présence définitive. Il s'est fait homme, il s'est fait chair. Ce n'est pas une présence symbolique. Il a assumé toute notre humanité. Et puis dans tous les grands discours de Jésus qui dit « Maintenant, je vais vers le Père. Quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi. » Toute cette thématique du retour vers le Père, ben c'est la thématique de la Merkaba, hein, de ce char qui emporte Élie au ciel, qui retourne à Dieu. Simplement, vous voyez à la fois cet héritage donc, que Jésus assume et nous donne, et en même temps cette nouveauté complète hein, dans la manière. Moïse avait reçu les 10 paroles gravées sur des tables de pierre, hein, écrites du doigt même de Dieu. En Jésus, la parole se fait chair, gravée par l'Esprit Saint, dans le sein de Marie. Hein, ce n'est plus des tables de pierre qui abritent la loi. C'est le sein d'une femme qui va mettre un enfant au monde. Dieu ne se donne plus dans les éclairs, le tonnerre, sur la montagne fumante, hein, entourée de la gloire de Dieu, et le peuple avait l'interdiction de s'approcher, de monter sur la montagne, et Moïse seul pouvait monter. Non, là, c'est un don dans une extrême simplicité, un don silencieux. Hein. Le Verbe se fait chair dans le sein d'une femme, dans la plus grande pauvreté. Il n'y a même pas de place pour l'accueillir à Bethléem. Vous voyez le contraste entre cette révélation du Sinaï et puis oui, la pauvreté, la simplicité, l'intimité, la douceur avec laquelle il se donne dans le mystère de son incarnation. On avait déjà une annonce de ça hein, dans la brise légère, hein, quand Élie reçoit cette révélation de Dieu qui n'est pas dans le feu, qui n'est pas dans le tonnerre, qui n'est pas dans l'ouragan, qui n'est pas dans le tremblement de terre, mais dès qu'Élie perçoit le murmure du fin silence, ah, il se couvre le visage, il se tient à l'entrée de la grotte. Ben ça s'accomplit pleinement en Jésus. Dieu se donne dans le visage d'un enfant. Et ça investit le chrétien d'une responsabilité absolument nouvelle. Vous voyez, le juif déjà devait obéir à la Torah et le faire de tout son cœur, vraiment en y mettant tout son amour. Mais en Jésus, qui est la parole de Dieu, c'est même plus les 10 paroles, c'est la parole éternelle de Dieu, la Torah vivante, et bien face à ce Dieu qui se donne dans une telle vulnérabilité, la faiblesse d'un petit enfant, si on ne prend pas soin de lui, petit enfant, bah, il n'est rien sans ses parents, hein, il a besoin de bras pour le porter, le réchauffer, le nourrir, le faire grandir, et bien Dieu se donne dans cette fragilité-là. Et donc il n'attend pas seulement une obéissance à ses décrets, à ses préceptes, mais il attend aussi une délicatesse, des initiatives d'amour absolument inouïes, hein, que Dieu se remette de cette manière-là entre les mains de Marie, entre les mains de Joseph et entre nos mains, entre les mains de son Église, de ses prêtres dans l'Eucharistie. Hein. Non plus un Dieu qui se donne dans la puissance, et qui va libérer, mais un Dieu qui se révèle d'abord dans la faiblesse. Et encore, la faiblesse du petit enfant de Bethléem n'est rien à côté de la faiblesse du crucifié. Révélation inouïe, mais qui nous investit, voyez, d'une d'une responsabilité encore plus grande que d'obéir à tous les préceptes de la Torah. Parce que Dieu se donne comme un enfant, mais aussi comme un ami. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Et un ami, ben, on ne fait pas que juste obéir au minimum en faisant... Non, une relation d'amitié, c'est une relation où on va chercher à anticiper les désirs de l'autre, à toucher son cœur, à faire plus que ce qui nous oblige, mais à vraiment se donner par amour. Alors déjà, le juif devait aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, mais là, Dieu se fait homme et instaure une relation d'amitié avec nous. Au point qu'il va dire dans l'évangile de Jean, « Demeurez en moi comme je demeure en vous ». Vous voyez, c'est plus seulement vivre en présence de Dieu, comme le Deutéronome le disait. J'ai perdu ma feuille. Garder et mettre en pratique tous ces commandements devant le Seigneur notre Dieu. Et bien maintenant, il s'agit de demeurer en lui. Pas seulement obéir devant lui, en sa présence, mais demeurer en lui. Vivre dans le Christ, hein, comme le dit saint Paul, en Christo. Hein, c'est une expression qui revient plus de 100 fois dans les épîtres de Paul, dans le Christ. Il faut vivre dans le Christ, penser dans le Christ, agir dans le Christ, tout faire dans le Christ. Comme un ami demeure en son ami. Donc il ne s'agit pas de, vous voyez, même pas de d'imiter le Christ matériellement, de l'extérieur, même pas encore seulement de le suivre. Il faut chercher le Christ, il faut croire en lui, il faut le suivre, emprunter le chemin qu'il a suivi. Mais tout ça en vue de demeurer en lui, comme il demeure en nous. Au point que Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pensez encore à tous ces mots que Paul forge, hein. C'est des néologismes, il invente des mots, plus exactement il enrichit des mots en rajoutant un préfixe en grec, sun, avec, pour dire ben, nous sommes une seule plante avec le Christ, par exemple. Si on traduit littéralement, le verset de l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 5, par le baptême, nous sommes devenus une seule plante, nous sommes greffés, hein, souvent traduit comme ça, greffés sur le Christ, nous sommes une seule plante avec lui, un sum futoi. Et puis Galates 3, 27, hein, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. C'est la même image qu'on retrouve encore dans les paroles de Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, hein, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. » Il ne parle pas de sarments qui sont greffés sur la vigne, ou accrochés, ou attachés au cep, non. Il parle des sarments qui demeurent en lui. Donc ça ne suffit, vous voyez, c'est déjà très grand, hein, de chercher à être uni à Jésus et de tout vivre avec lui. Mais l'exigence du Christ va encore plus loin. Il n'est pas seulement pour nous source de vie. Il faut aller jusqu'à dire que nous lui sommes intégrés. Nous ne faisons plus qu'une seule personne, qu'un seul organisme vivant avec lui. Il ne dit pas « je suis le cep, vous êtes les sarments ». Il dit « je suis la vigne ». La vigne, c'est l'ensemble, le cep et les sarments. Nous formons comme un seul organisme vivant avec lui. Et Paul va avoir encore cette audace, hein, cette hardiesse de dire « pour moi, vivre, c'est Christ ». Vivre, c'est Christ. Avec une équivalence absolue dans la formule. Et donc en dehors de lui, ben, je ne vis pas. Si vous retournez la formule, c'est ça. Ma vie, c'est le Christ. Vivre, c'est Christ. Et c'est ça que le martyr va proclamer dans les premiers temps de l'Église. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Alors le mot martyr, hein, vous le savez, signifie témoin. À l'origine, enfin, tout témoin du Christ est martyr, témoin. Hein. Mais très vite, hein, dès le deuxième siècle, eh bien, en fait, on en est venu à réserver le mot martyr pour désigner ceux qui avaient vraiment versé leur sang pour le Christ. Hein. Donc ceux dont le témoignage était définitif, on pourrait dire. Hein. Ceux qui étaient allés jusqu'au bout du témoignage au point d'avoir incarné pour moi vivre, c'est le Christ, dans le don de leur vie jusqu'à la mort, en versant leur sang pour le Christ. Et je vous le disais la semaine dernière, du coup, ce sont les martyrs qui sont les premiers saints, hein, que l'Église a honorés. Ils étaient comme des entraîneurs pour les autres, oui, des gens dont le témoignage était allé jusqu'au bout, donc des signes, des lumières, hein, des entraîneurs. Surtout dans des périodes où, évidemment, où le christianisme n'était pas encore la religion de l'Empire, et où il y avait des périodes de persécution, hein, qui n'ont pas été constantes ni générales, mais qui ont été régulières. Et donc la spiritualité du martyr des premiers siècles, c'est de dire le martyr, c'est un autre Christ. C'est quelqu'un qui a laissé le Christ revivre en lui sa passion et sa mort et sa résurrection. Puisque nous fêtons aujourd'hui Saint Polycarpe, hein, qui fait partie de ces pères apostoliques. Les pères apostoliques, ce sont les pères qui ont connu les apôtres. Hein, donc c'est la génération qui suit celle des apôtres. Hein. Eh bien, dans le récit du martyr de Polycarpe, on dit ceci: les martyrs, nous les honorons comme les disciples du Christ et ses imitateurs. Nous les aimons comme ils le méritent, à cause de leur amour incomparable pour leur roi et leur maître. Donc les disciples du Christ et ses imitateurs. Le martyr sait très bien qu'il n'est pas martyr par ses propres forces, par lui-même, mais que c'est un autre qui souffre en lui. On a aussi le récit du martyr de Perpétue et Félicité, un peu plus loin. Et Félicité donc était une jeune mère enceinte quand elle a été emprisonnée. Et quand elle se plaignait, elle souffrait dans les douleurs de l'enfantement, ceux qui la voyaient là, en prison, en attendant son exécution, disaient « si tu te plains maintenant au moment de mettre ton enfant au monde, mais qu'est-ce que tu feras quand tu seras exposé aux bêtes ?» Et Félicité répondait « maintenant c'est moi qui souffre. » Mais à ce moment-là, c'est un autre qui souffrira en moi. Vous voyez, cette conscience du martyr, que c'est par la grâce et par la force du Christ qui revit sa passion en lui, que le martyr pourra être fidèle. Donc on a reconnu très vite, dans les premières communautés chrétiennes, les martyrs comme des saints, des intercesseurs privilégiés auprès de Dieu. Donc on a écrit, comme le martyr de Polycarpe, on a fait des récits. Alors plus ou moins enjolivé après de détails plus ou moins authentiques. Hein. Mais on a raconté la passion des martyrs, là aussi pour transmettre d'une génération à l'autre. Hein. On a honoré les corps des martyrs. On a célébré l'Eucharistie sur leur tombeau. Plus tard, on a construit des églises, des basiliques, on a fait des pèlerinages sur les tombeaux des martyrs. Et donc on ne comprend la spiritualité chrétienne des origines qu'en prenant conscience vraiment de cette centralité du martyr dans les premiers siècles du christianisme. Alors je voudrais finir dans les 10 minutes qui nous restent sur l'exemple d'Ignace d'Antioche, donc un autre père apostolique qui a connu les apôtres. Donc il est mort en l'an 107-110, et lui aussi était condamné aux bêtes. Il était sous l'empereur Trajan, donc il a été condamné à subir le supplice des bêtes. Et Ignace d'Antioche évêque, hein, donc d'Antioche, qui était un siège prestigieux à l'époque, et donc Ignace, à la fois de par sa personnalité, mais aussi de par le siège épiscopal qu'il occupait, avait une autorité sur toute l'Asie mineure. Et donc quand il est arrêté, condamné, eh bien, il va faire tout ce périple, alors sous la garde de soldats romains. On l'emmène de Syrie jusqu'à Rome pour qu'il subisse son martyre à Rome. Et en chemin vers la cité éternelle, dans toutes les villes où il passe, eh bien, les églises, les communautés chrétiennes envoient des délégations pour le saluer, pour l'encourager. Et Ignace écrit des lettres qu'il donne aux délégués, et qui vont rapporter ces lettres dans leurs communautés respectives. Et donc nous avons sept lettres d'Ignace d'Antioche, qui datent donc de ce début du IIe siècle. La lettre aux Romains, la lettre aux Éphésiens, ça va vous rappeler là aussi les lettres de saint Paul. Hein. Donc vous avez la lettre aux Magnésiens, aux Traliens, aux Smyrniotes. Vous avez sept lettres comme ça, et puis une à l'évêque Polycarpe, hein, qui était évêque de Smyrne. Et quelles sont les idées centrales de ces lettres d'Ignace? D'abord, l'accomplissement du dessein de Dieu. Dieu a tout préparé dans le peuple juif, par l'intermédiaire des prophètes, et il accomplit tout dans le Christ. Ignace écrit ceci aux Magnésiens: les prophètes étaient les disciples du Christ par l'Esprit. Ils l'attendaient comme leur maître. Ça, c'est la première idée, je ne développe pas plus. La deuxième idée, c'est très intéressant de voir qu'on est seulement au début du IIe siècle. Évidemment, il n'y a pas encore eu des conciles qui vont préciser les dogmes christologiques, une seule personne divine en deux natures, il n'y a pas encore le dogme de la Trinité, etc. Et bien déjà, au tout début du IIe siècle, une christologie extrêmement équilibrée chez Ignace, qui affirme à la fois la divinité du Christ face à ceux qui la contestent, mais aussi la réalité de son incarnation et de sa passion, face à l'hérésie des docètes qui disent « Ah, il n'a souffert qu'en apparence ». Donc une christologie magnifique chez Ignace. Je vous lis très très vite un passage, parce qu'on va manquer de temps. Il n'y a qu'un seul médecin, hein, donc c'est le Christ médecin. Charnel et spirituel, engendré et inengendré, venu en chair, Dieu, né de Marie et né de Dieu, d'abord passible et maintenant impassible, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a été véritablement cloué pour nous dans sa chair sous Ponce Pilate et Hérode le Tétrarque. Tout cela, il l'a souffert pour nous, pour que nous soyons sauvés. Il a véritablement souffert, comme aussi il s'est véritablement ressuscité, non pas, comme disent certains incrédules, qu'il n'ait souffert qu'en apparence. Car si, comme le disent certains athées, c'est-à-dire des infidèles, il n'a souffert qu'en apparence, moi, donc moi Ignace, pourquoi suis-je enchaîné? Pourquoi donc souhaiter combattre contre les bêtes? C'est donc pour rien que je me livre à la mort? Donc vous voyez, c'est ça, la force qui porte Ignace tout au long de son chemin vers le martyre, c'est sa foi, sa certitude que le Christ a souffert pour lui réellement. Et puis, donc, par-dessus tout, il faudrait souligner aussi le souci constant d'Ignace pour l'unité de l'Église autour de l'évêque. Ce n'est pas directement le thème que je veux développer, mais c'est une idée centrale, hein, dans les lettres. Mais je finis peut-être en lisant avec vous un extrait de la lettre donc d'Ignace aux Romains. Ignace, vous savez, c'est Ignis, c'est le feu, hein, en latin. Donc Ignace, c'est quelqu'un qui est plein de feu. Il est fou d'amour pour le Christ, il est dévoré par un feu, au point qu'il désire mourir pour Dieu et qu'il supplie donc toutes ces communautés chrétiennes qui cherchent tous les moyens possibles pour le faire échapper à la mort. Bien, il va les supplier en disant « Mais ne m'empêchez pas de vivre », au sens de « Ne m'empêchez pas de mourir pour le Christ ». Il y a un jeu de mots constant entre vivre et mourir dans les lettres d'Ignace. Ben, voilà, si vous voulez vraiment mon bien, mon bonheur, si vous voulez être unis à ce que je désire, si vous voulez me permettre de vivre, ne m'empêchait pas d'aller jusqu'à Rome et d'être livrée aux bêtes. Parce que pour moi, c'est ça la vie. Vous me rendriez un service abominable en me faisant échapper à ce qui est le lieu, finalement, de ma communion au Christ. Moi, j'écris à toutes les églises et je mande à tous que moi, c'est de bon cœur que je vais mourir pour Dieu, si du moins, vous ne m'en empêchez pas. Je vous en supplie, n'ayez pas pour moi une bienveillance inopportune. Laissez-moi être la pâture des bêtes par lesquelles il me sera possible de trouver Dieu. Je suis le froment de Dieu, je suis moulu par la dent des bêtes pour être trouvé un pur pain du Christ. Un très fort symbolisme eucharistique. Hein. Flattez plutôt les bêtes pour qu'elles soient mon tombeau et qu'elles ne laissent rien de mon corps, pour que dans mon dernier sommeil, je ne sois à charge de personne. C'est alors que je serai vraiment disciple de Jésus-Christ, quand le monde ne verra même plus mon corps. Implorez le Christ pour moi, pour que par l'instrument des bêtes, je sois une victime offerte à Dieu. Si je souffre, et là vous voyez un écho avec le Deutéronome, si je souffre, je serai un affranchi de Jésus-Christ, et je renaîtrai en lui libre. Vous voyez, on retrouve cette idée de libération. Le martyr, ben voilà, il est enchaîné entre toute une garde de soldats. Extérieurement, il n'a rien de libre. Eh bien, si je souffre pour lui, je renaîtrai en lui libre. Je passe quelques lignes. C'est maintenant que je commence à être un disciple. Rien ne me servira des charmes de ce monde ni des royaumes de ce siècle. Il est bon pour moi de mourir pour m'unir au Christ Jésus, plus que de régner sur les extrémités de la terre. C'est lui que je cherche, qui est mort pour nous, lui que je veux, qui est ressuscité pour nous. Oui, c'est lui, la véritable terre promise, ruisselante de lait et de miel. Hein. C'est vers lui que je marche, c'est lui que je veux. Je n'ai pas d'autre richesse que lui. Une autre très belle image, mon enfantement approche. Il parle de sa mort, puis d'une mort terrible, abominable, hein, violente, comme un enfantement. Naissance à la vie éternelle. Pardonnez-moi, frère, ne m'empêchez pas de vivre, ne veuillez pas que je meure. Celui qui veut être à Dieu, ne le livrez pas au monde, ne le séduisez pas par la matière, laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand je serai arrivé là, je serai un homme. Permettez-moi d'être un imitateur de la passion de mon Dieu. Si quelqu'un a Dieu en lui, voyez, on reconnaît, on retrouve ça, hein, demeurer en moi. Si quelqu'un a Dieu en lui, qu'il comprenne ce que je veux et qu'il ait compassion de moi, connaissant ce qui m'étreint, hein, ce désir qui me consume. Et si quand je serai près de vous, je vous implore, ne me croyez pas. Et c'est très beau, hein, il n'y a pas de présomption chez Ignace. Il se dit, bah, si une fois arrivé, je commence à faiblir, ne croyez pas ce que je vous dirai à ce moment-là. Croyez ce que je vous écris maintenant, que je suis encore en pleine possession de mes moyens. C'est ce que je vous dis maintenant qu'il faudra croire. C'est bien vivant que je vous écris, désirant de mourir. Mon désir terrestre a été crucifié. Il n'y a plus en moi de feu pour aimer la matière. Vous voyez, pour quelqu'un qui s'appelle Ignace, hein, feu. Il n'y a plus en moi de feu pour aimer la matière, le monde, hein, mais en moi une eau vive qui murmure et qui dit au-dedans de moi, viens vers le Père. Et c'est très beau, hein, comme après toutes ces images un peu violentes d'être moulu sous la dent des bêtes, lacération, écartèlement, dislocation des os, je vous ai passé toutes ces lignes-là, hein, de finir sur cette douceur. Il n'y a plus en moi qu'une eau vive qui murmure, viens vers le Père. Donc c'est pas je me précipite vers la mort tête baissée, non, je réponds au Christ qui m'attire, hein, viens vers le Père, une eau vive qui murmure, viens vers le Père. Voilà, c'était un parcours beaucoup trop rapide, mais je vous laisserai peut-être reprendre ces passages, et puis si vous avez telle ou telle remarque ou question, vous pouvez toujours venir me trouver ou m'en reparler après. Voilà. Bonne semaine. Donc la fois suivante...